Écho d'économie.
La réduction des dépenses des biens et des fonctionnements, ce sont là les recommandations du Fonds monétaire international au gouvernement congolais. C'est là en vue de contenir l'inflation ainsi que les pressions sur les marchés d'échange. Quid de l'exploitation par l'entreprise chinoise Bichu du diamant de la société minière de Bakwanga? Une équipe des journalistes y a effectué une visite pour savoir ce qu'il en est. Bienvenue à tous. Le FMI recommande au gouvernement de la RDC des politiques monétaires et budgétaires restrictives avec un accent particulier sur la réduction des dépenses de biens et des fonctionnements. C'est au sujet des pressions sur le marché d'échange et l'inflation. C'est la ressort de la situation des finances publiques présentée par Nicolas Kazadi lors du dernier conseil des ministres. Quelle lecture faire de cette recommandation? Comment expliquer l'inflation actuelle et la crise de change? Quelles sont les solutions envisageables pour solutionner le problème? Un dossier de Cynthia Bachizi Nabizana.
La RDC traverse actuellement une crise économique, mais plus spécifiquement une crise de change avec une dépréciation de la monnaie nationale. Et pour le professeur Néné Morichaud, coordonnateur de Paul Institute et professeur d'université et spécialisé dans les questions de finances publiques, cette recommandation du FMI d'avoir des politiques budgétaires limitatives est un mauvais diagnostic du problème. Selon lui, la crise économique actuelle est surtout causé par un choc externe et non interne. Et ce choc externe est donc à la base de la baisse des réserves de change au niveau de la Banque centrale du Congo. Professeur Néné Morichaud.
Il y a quelques jours, je lisais encore que les réserves ont baissé de 500 millions à 700 millions de dollars. Donc la baisse des réserves d'échange suppose qu'on a moins de devises pour défendre la monnaie nationale et donc pour financer les importations. Alors vers août de l'année passée, la RDC a atteint le pic, le plus haut niveau de ses réserves d'échange. On était à 4,3 milliards, plus de 11 à 12 semaines d'importation. Et c'est pour cela que vous allez voir que pendant toute l'année 2022, qui était vraiment l'année de la crise, où toutes les monnaies ont presque dévissé par rapport au dollar, mais les francs congolais n'ont pas perdu leur valeur. Hein. On est resté à 2000 pendant une période de forte crise. Pendant que les monnaies des pays voisins, même l'euro, s'est déprécié par rapport au dollar.
Nous avons donc en ce moment moins de réserves d'échange à cause de la baisse drastique du prix du cobalt.
En 2022, le prix du cobalt, il était à 81 000 dollars la tonne. On a atteint des niveaux très élevés. Et vous savez, aujourd'hui, le prix de la tonne est à combien? À 35 000. Donc, divisé presque par deux, plus de deux. Ça signifie qu'on a moins de rentrées de devises à cause de la baisse drastique du prix du cobalt et d'autres produits miniers sur le marché international.
Il faut donc que l'économie congolaise sorte de sa dépendance de quelques produits miniers, notamment le cobalt, le cuivre et le coltan, si le pays veut être à l'abri des chocs conjoncturels permanents liés à la fluctuation des prix de ces minerais sur les marchés.
Nous importons aujourd'hui la farine de maïs, madame. Nous en sommes arrivés là. Diversifier l'économie, c'est-à-dire que nous commençons à produire la farine de maïs chez nous. Lorsque vous allez en Tanzanie, lorsque vous allez en Ouganda importer ces produits, vous devez le faire en dollars. C'est des devises qui vont à l'étranger. Créer des usines chez nous pour produire la farine de maïs, ça c'est un exemple très banal. Et j'en suis très content. C'est de voir qu'il y a une prise de conscience au niveau national. On a un ministre de l'industrie qui est très dynamique, qui essaie de créer des pôles d'industrialisation ou de réindustrialisation, parce que c'est la plupart de ces industries existaient avant.
Limiter, réduire les dépenses publiques, mieux gérer le déficit budgétaire, c'est tout aussi bien, mais la solution sur le long terme réside dans la diversification de l'économie, selon plusieurs experts avec qui nous avons échangé.
Au Kassai oriental, la société chinoise dénommée Bichu, qui a signé le contrat d'amodiation avec la société minière de Bakwanga, n'a pas encore commencé l'exploitation du diamant au polygone minier. Cette affirmation a été faite mardi par la délégation syndicale de la MIBA après une visite guidée organisée par la MIBA au polygone minier avec les journalistes des médias locaux. Esther Dalafina, nous en parlons avec vous. Bonjour Esther, quel a été le but de cette visite guidée au polygone minier?
Bonjour Jocelyne. D'après les autorités de la MIBA, l'objectif de cette visite a été de se rendre compte de l'exploitation ou non du diamant au niveau de la boucle des Dibindi qui se trouve à l'extrême est du polygone minier. Il faut dire que cette visite intervient après une lettre adressée il y a quelques semaines aux autorités de la société minière de Bakwanga par un sénateur élu du Kasaï oriental. Ce dernier veut avoir des explications autour de l'exploitation minière au niveau de la boucle des Dibindi au polygone minier. minier estimé à moins d'un kilomètre carré par une entreprise chinoise dénommée Bichu.
Qu'est-ce que les journalistes ont constaté sur place, Esther?
Bien, sur place, les journalistes se sont rendus compte de la non-exploitation minière par l'entreprise chinoise ainsi que de l'absence des ressources humaines sur ce lieu. Cependant, quelques équipements ont déjà été déployés sur le site par l'entreprise chinoise. Albert Kalongi-Ditoutou, directeur technique de la société minière de Bakwanga, a affirmé que ce gisement n'est plus prioritaire. Ses réserves en diamant représentent près de 1,9% et son exploitation a été suspendue depuis 2006. Selon lui, il ne s'agit pas d'une cession d'une concession, mais plutôt d'un contrat d'amodiation, c'est-à-dire que l'AMIBA accepte de mettre en activité ce gisement avec un partenaire. Ils vont travailler ensemble et le partenaire sera soumis à un loyer qui sera fixé soit mensuellement ou annuellement.
La signature de ce contrat n'aura pas d'impact sur le plan de relance de l'AMIBA?
Selon l'AMIBA, la signature de ces contrats ne peut en aucun cas impacter sur le plan de relance de cette entreprise minière. D'après son directeur technique, le plan de relance a tenu compte du fait qu'il y avait déjà un contrat d'amodiation qui était déjà en cours de négociation. Le plan de relance s'est beaucoup articulé sur les ressources que l'AMIBA dispose au niveau du secteur ouest du côté Kanchu 3 et dans le secteur centre.
Que représente la réserve minière de l'AMIBA?
L'AMIBA extrait le diamant au polygone minier qui couvre une superficie de plus de 45 km². Le polygone minier est découpé en plusieurs périmètres miniers contenant des gisements de diamants avec près de 13 à 14 massifs kimberlitiques. L'AMIBA compte à ce jour 66 millions de carats de diamants, des réserves minières stratégiques certifiées par ses propres services, affirme les directeurs techniques de cette société minière. Cependant, les banques étrangères ou certains partenaires qui étaient prêts à financer l'AMIBA n'ont pas été sûrs des estimations de services de cette entreprise. Ils continuent à demander par conséquent une contre-vérification pour confirmer ou pas ces estimations. Pour rappel, disons qu'en 2010, le gouvernement congolais avait débloqué 10 millions de dollars pour la relance et la certification des réserves, mais plusieurs indiscrétions signalent que la totalité de ces fonds n'avait jamais été versée dans les comptes de l'AMIBA.
Merci Esther Ndalafina.
Merci beaucoup Jocelyne.
En bref, Kinshasa accueille ce vendredi 28 avril la deuxième réunion des parties prenantes du conseil d'affaires RDC Nigeria après celle organisée en janvier dernier à Lagos au Nigeria. C'est dans ce cadre que l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, parrain du conseil d'affaires RDC Nigeria, fera le déplacement de Kinshasa du 27 au 28 avril 2023, accompagné d'une forte délégation d'environ une trentaine d'officiels et des capitaine d'industrie nigériane pour prendre part à cette importante rencontre d'affaires dont l'objet demeure de booster l'entrepreneuriat et les affaires et faciliter le partage d'expériences entre hommes d'affaires congolais et leurs homologues nigériens. Placée sous le haut patronage du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, cette rencontre va s'apesantir sur l'état d'avancement des points convenus lors de la première réunion à Lagos, les tendances actuelles et à venir du marché en RDC et au Nigeria et les avancées enregistrées de part et d'autre sur les questions liées à l'environnement des affaires, les récents changements intervenus au plan politique, notamment au Nigeria, ainsi que les propositions concrètes sur la façon de réduire les barrières commerciales entre la RDC et le Nigeria et intensifier les relations commerciales et les investissements entre les deux pays. Pour rappel, c'est en marge de la 8e édition du forum Makutano qu'une table ronde RDC-Nigeria avait été organisée le lundi 31 octobre 2022 à Kinshasa autour du thème « Opportunités et modèles pour la création des champions nationaux congolais ». Cette activité avait finalement abouti à la création d'un conseil d'affaires RDC-Nigeria. La défectuosité de la RN3 impacte négativement les vendeurs des produits vivriers en provenance des Bunyakiri dans les territoires de Calais. Nous sommes au sud Kivu. C'est la craie et la rareté des produits vivriers en provenance de Bunyakiri sur le marché de Bukavu. Il s'agit de produits comme le manioc, l'arachide, la banane, plantain et l'huile de palme. Les propriétaires de camions qui assurent le transport entre la ville de Bukavu et Bunyakiri se réservent d'engager leurs véhicules sur cette route qui n'existe plus que de nom. Le coordonnateur de l'association des vendeurs et acheteurs d'huile de palme sollicite la volonté du gouvernement Pour rendre accessible l'axe routier Miti-Bunyakiri, Essita Simoula Faustin est au micro de Jean Kassami.
Cette dégradation très avancée de la RN3 a créé des faillites à nos membres, acheteurs et vendeurs d'huile de palme. Non seulement ça, il y a des accidents de circulation du jour au lendemain. On a observé des pillages et consorts. Actuellement, il y a un nombre croissant de mamans tombées en faillite et la vie est devenue très très difficile. Elles ne sont plus capables de trouver à manger. Le véhicule réalise même autant de mois en cours de route. Il y a aussi le problème des accidents de circulation. Nous sollicitons au gouvernement national d'intervenir à la réhabilitation. S'il serait peut-être impossible de construire la route, mais de réhabiliter au moins l'axe Miti-Hombo, et au gouvernement provincial de réaliser la promesse qu'ils avaient donnée de dire qu'ils vont réhabiliter la RN3 Miti jusqu'à Hombo. On a fait autant d'organisations au niveau de Bunyakiri pour la réhabilitation de la RN3, on faisait des contributions. Mais on ne sait pas où est-ce que les contributions ne sont pas bien calibrées par le gouvernement afin de parvenir à la solution. Mais si une fois aujourd'hui, on peut dire que nous pouvons passer par des cotisations, nous sommes d'accord de le faire pourvu qu'il y ait praticabilité de la RN3. Moi, je suis ressortissant de Bunyakiri. Si nous avions étudié, c'est grâce à l'achat et vente d'huile de palme. Et à cette époque, le maman a acheté des parcelles, des maisons et consorts.
C'est par ici que prend fin cette émission. Merci à vous, chers auditeurs, de l'avoir suivie.